Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous écoutez notre podcast, je vous propose de célébrer les 30 ans du plus international des journaux français, j'ai nommé Courrier International.
RFI.
It seems when you look at contemporary migration and immigration issues,
yes, antes de Navidad por
COVID-19
en Estados Unidos recomiendan a los la población, los habitantes, no viajar durante el Thanksgiving.
Mas também a comunidade internacional com reações, por exemplo, de eurodeputados pedindo uma intervenção da União Europeia em Moçambique.
Zekorotio foi na posição para que o governo reunir de samu a conversa e a empapata da queita canon com ingerspe.
Bala amahoro kule mjini Kigali, na hii ni kutokana na majeraha na sababu mbalimbali ambazo zitawafanya wachezaji hao kukosa.
Mimi ikati elenu upa, ni ikati elenu udron, ubi ikati kabo grupu. Mili ikati elenu taira kafofene, itesi ikuni, dou yere ulubi dikindoro.
Вот и остается Лев Николаевич как бы в стороне от нынешней страны. Как он умер в 1910 году от ученых в церкви.
Мы пойдем лень бой кафофе, и ông vẫn hy vọng là ông sẽ được xử.
Nếu
Il existe une rédaction dont les journalistes épluchent pour nous la presse étrangère et nous en propose une sélection traduite en français et mise en forme avec soin. Je vous parle bien sûr de Courrier International qui paraissait pour la première fois il y a 30 ans. Je reçois sa directrice de la rédaction Claire Carrard, mais aussi son tout premier directeur de la rédaction Jean-Michel Boissy.
Atelier@rfi.fr
Bonjour Claire.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir dans l'Atelier des médias. Je précise que j'ai travaillé à Courrier International en 2013. Vous étiez alors rédactrice en chef. Et depuis juillet 2019, vous êtes la directrice de la rédaction. Alors Claire, on traverse depuis le début de l'année une crise mondiale. J'imagine que ces derniers mois, les équipes de Courrier ont été dans le dur, comme on dit.
Absolument. On a été dans le dur dès le mois de mars. En janvier, on a commencé à voir venir un peu des choses de Chine. On a couvert assez tôt ce qui se passait en Chine, mais sur le site principalement, et puis dans l'hebdo tout doucement, dans les pages. On a fait en février une couverture sur la Chine, le lockdown à Wuhan. Et puis mi-mars, je me rappelle très bien, on était en train de préparer un numéro sur la crise des réfugiés. Et tout d'un coup, au vu de la situation en Italie, en fait, et au vu de la situation de ce qui se profilait en France, et notamment le confinement à venir, tout d'un coup, on a tout changé, tout cassé la une, et on a renvoyé les équipes chez elles, et on a fait la première une, qui était la première d'une longue liste sur la pandémie, qui s'appelait « La pandémie qui vient ».
C'était le 19 mars.
19 mars, voilà. Première une sur le sujet. Il y en a eu beaucoup d'autres depuis, malheureusement.
Alors justement, vous avez décliné cette crise sanitaire et toutes les autres crises qui sont liées dans les semaines qui ont suivi, sur des questions économiques, sur des questions de démocratie dans le monde, etc. Comment est-ce que vous faites au quotidien ? Expliquez-nous comment travaille votre rédaction pour avoir les yeux ouverts sur le monde entier et sur la diversité de la presse quotidienne, magazine, etc. du monde entier.
Alors dans cette crise, c'est un petit peu particulier parce qu'en plus, on n'était pas les uns avec les autres, ce qui est beaucoup plus facile parce que on a beaucoup travaillé à distance. Mais de façon générale, chaque matin, on échange tous nos rédacteurs qui sont spécialisés par thématique ou par région, lisent les presses de leur région. La personne qui fait la Chine lit la presse chinoise, la personne qui fait la Russie lit la Russie. Les personnes qui font la culture lisent beaucoup de journaux autour de la culture, et ainsi de suite, en économie, en sciences, donc de la presse étrangère. Et tous les matins, on échange et chacun nous fait remonter par mail ou en réunion quand on est en présence tous ensemble au journal, des propositions d'articles, soit qui sont totalement liés à l'actualité, soit qui les ont surpris, qui étaient particulièrement bien écrits sur des sujets qu'on n'a pas lus ailleurs, parce que ça c'est quelque chose auquel on tient beaucoup à Courrier, c'est de repérer des choses qu'on n'a pas forcément lues ailleurs. Et ensuite on en discute et on fait des arbitrages pour savoir ce qu'on va publier d'abord sur le site et ensuite dans l'hebdomadaire. dans cette crise qui était particulière, c'était qu'on demandait à chacun, d'abord on s'est dit qu'en France on saturait beaucoup d'informations sur ce qui nous arrivait ici chez nous, donc toutes les radios françaises, les télés, les médias français faisaient tout à fait bien leur travail, mais nous on s'est dit qu'à partir d'inquiétudes qu'on pouvait avoir ici, on allait plutôt regarder ce qui se passait ailleurs dans le monde, pour essayer d'anticiper sur ce qui pourrait nous arriver ensuite. Et donc ça, on l'a exercé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur tous les domaines. Qu'est-ce qui économiquement est en train de se passer en Italie, en Asie? Qu'est-ce qui peut se passer ensuite en France? En quoi les démocraties sont-elles minées ailleurs? Et c'est vrai que le côté mondial de cette crise a fait qu'on avait une masse d'informations assez facile à voir venir et à décrypter. Après, toute la question dans ces genres de crise mondiale, c'est de faire le tri, en fait.
Et donc de continuer aussi à avoir ce regard décentré, décalé sur l'actualité, alors que là, l'actualité était d'une certaine façon assez unique et que tous les médias parlaient de ça et presque parfois que de ça.
Absolument, c'était la difficulté, parce que nous, ce que je trouve bien dans Courrier, c'est la variété des choix, les différents regards. Là, ce qui était compliqué, c'est qu'on avait l'impression d'avoir une information un petit peu uniforme, en tout cas même au niveau mondial. J'avais demandé au début, par exemple, à la dernière rubrique du journal, qui est la page 360, d'essayer de trouver des articles hors actualité Covid, parce que je pense que le lecteur, au bout d'un moment, c'est une actualité qui est un petit peu anxiogène. C'était dans les premières semaines, ils ont bien tenu le choc. Dans les dernières semaines, c'était plus compliqué, parce que même les pages culture, vu que la culture se réduisait comme peau de chagrin, il y avait beaucoup moins de choses, mais il y a eu des initiatives intéressantes qu'on a relayées. Et voilà, donc il y a ce qui était compliqué, ce qui pour nous est intéressant comme exercice. C'est qu'à la fois, il y a une masse d'informations, mais après, ce qu'on essaie de faire, c'est quand tout d'un coup, on nous dit « il se passe ça en Russie », et puis « il se passe quelque chose au Liban », »,« il se passe quelque chose au Brésil », et tout d'un coup, tout se met en place. On trouve un écho dans des pays différents, et c'est comme ça qu'on arrive à construire des dossiers sur des phénomènes à partir de signaux faibles, je dirais parfois. Et on essaie de réunir des choses qui ne sont pas a priori faites pour être ensemble, parce qu'on part toujours d'articles qui ont été écrits, hein, dans d'autres supports, et à partir de là, on construit des actualités qui font sens.
Ça, c'est très intéressant. Je me souviens de mon époque à Courrier International en 2013. Il y avait ce bouillonnement, ces échanges permanents entre les journalistes de différentes zones lors de conférences de rédaction, mais aussi de façon totalement informelle à la machine à café, en train de se dire « Ah tiens, pour info, j'ai vu passer cet article-là qui peut-être peut t'intéresser pour ta chronique, ta rubrique, etc. » Alors, ce qu'on peut rappeler, ce qu'on peut expliquer aussi, c'est qu'à Courrier International, il y a les journalistes qui sont basés à Paris, mais également tout un réseau de correspondants qu'on appelle les vigies.
Absolument, et nous avons une quinzaine, vingtaine de vigies, je ne vais pas dire de bêtises, et une trentaine de journalistes à la rédaction à Paris, un peu plus, et donc chacun est spécialisé par zone, et ce qu'on essaye, c'est vrai, ce que vous dites, c'est très drôle, il y a les échanges à la conférence de rédaction, il y a les échanges formels où chacun fait des propositions, mais il y a dans le côté informel, effectivement, très souvent un ping-pong entre les rédacteurs, entre les secteurs, la personne en charge du Royaume-Uni qui parle à la personne de l'économie, chacun a repéré des papiers pour ces zones, et c'est comme ça qu'on se met à construire petit à petit des dossiers. Là, on est en train d'en envisager deux ou trois pour les semaines à venir, et on hésite parce que suivant par quelle porte d'entrée on entre, on n'est pas exactement sur les mêmes angles. On a la possibilité de faire quelque chose d'assez classique sur le Covid dans les prochaines semaines, et puis on a la possibilité de construire autrement si on prend de la presse britannique, si on prend voilà, à chaque fois c'est une réflexion. La question est de savoir sous quel angle on va aborder les choses.
Oui, c'est ça, parce que ce que vous disiez aussi, et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à Courrier International, on n'écrit pas, ou alors très peu, c'est-à-dire qu'on fait de l'édition d'articles ou de la traduction d'articles déjà parus ailleurs, mais en aucun cas il n'est question, lorsqu'il n'y a pas un angle qui nous intéresse, d'écrire pour occuper cette place dans l'hebdomadaire.
Alors, dans l'hebdomadaire, non, enfin, c'est un petit peu moins vrai. Disons que les principes fondateurs du Courrier n'ont pas changé, parce que c'est ce qui fait la spécificité du journal, ce regard décalé qui est issu intégralement de la presse étrangère. Donc, on n'écrit pas au sens où on ne produit pas notre propre information. On va chercher des articles publiés dans les presses du monde entier. On les résume parfois, on n'a pas de la place pour traduire tous les articles, mais Courrier, c'est d'abord un journal de traduction, l'hebdomadaire. En revanche, sur le site, et c'est le site qui est notre principal vecteur de développement actuellement, les journaux journalistes écrivent de plus en plus, mais toujours à partir d'articles de la presse étrangère, dont ils font des revues de presse ou des brèves pour raconter et mettre en scène et opposer des arguments trouvés dans la presse étrangère. Et eux, on n'a pas des éditorialistes ou des journalistes d'opinion ni des reporters. Ce sont vraiment les experts de leur propre presse, mais ce sont des journalistes absolument spécialisés sur leur zone. Et donc, s'ils se servent d'une source plutôt qu'une autre, c'est qu'ils savent que c'est cette source qui est la plus pertinente pour parler d'un problème, d'un conflit, d'une guerre ou d'une élection présidentielle américaine, par exemple.
Donc l'idée de trouver la bonne source, le bon article, et si nécessaire, d'entourer cet article ou ses contenus par tout un appareil journalistique et des clés de compréhension si besoin, c'est-à-dire une carte, un encadré, etc.
Absolument, ça c'est un travail fondamental à Courrier, la contextualisation, parce qu'il faut se souvenir que tous ces articles ont été écrits pour des lecteurs britanniques, chinois, sud-africains, et donc pour les rendre compréhensibles par un lecteur français, même si on essaie de prendre des articles pas totalement spécialisés, mais enfin, il y a des articles qui sont quand même complexes parce qu'il faut bien connaître la situation d'un pays. Donc on travaille énormément sur tous les éléments de contextualisation, de pédagogie, de rappel des faits, d'histoire, de contexte, les repères, les chiffres et les cartes et les infographies auxquelles je suis particulièrement attaché.
J'ai trouvé une formule d'Arnaud Bron, le directeur de la publication de Courrier International, qu'il y a quelques années, dans un entretien avec Les Échos, disait « Courrier International, c'est la curation avant Internet ». Je trouve cette formule assez rigolote et très vraie.
Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est à sa création, en 90, le journal était très innovant là-dessus. Maintenant, c'est un peu compliqué, c'est plus compliqué, parce que justement, avec Internet, il s'agit de continuer à être innovant, à trouver des sources qui ne sont pas lues partout, par tous, se différencier toujours et rester dans un registre de qualité et d'originalité. C'est pour ça que moi je tiens beaucoup à ce qu'on trouve dans le journal et qu'on lit sur le site des histoires qu'on ne lira nulle part ailleurs.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est l'idée que cela donne des clés de compréhension aux Français pour qu'ils sachent ce que le monde pense d'eux. Ce que vous dites régulièrement, très souvent, c'est on ne peut pas comprendre les problématiques françaises en se regardant uniquement le nombril.
Absolument, ça c'est une rubrique, la rubrique France, c'est une rubrique qui est plébiscitée par nos lecteurs. D'ailleurs sur le site, on a plusieurs hors-séries, on en refera aussi sur la France. La France vue d'ailleurs, ça nous permet de relativiser les choses beaucoup, ça nous permet de prendre un peu de distance avec nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que ça remet en question la qualité de la presse française, en aucun cas. Mais c'est un autre regard. Enfin, même si là, en ce moment, il y a une grosse bataille avec la presse anglo-saxonne, la presse américaine sur la question du séparatisme présenté par la loi sur le séparatisme présenté par Macron. Il y a une grosse polémique. Le New York Times a sorti un texte en français assez assassin.
En gros, on explique que Macron critique les médias américains.
Absolument. C'est une grosse bataille entre le Washington Post, le New York Times et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui récemment a publié un point de vue, une lettre dans le Financial Times, qui avait publié un autre point de vue critiquant ses positions et que ce point de vue a été retiré. Il y a un affrontement sur la façon dont ce que reproche Emmanuel Macron à ces journaux-là, c'est la façon dont ils nous perçoivent. Et ces journaux-là l'accusent, lui, de faire du trumpisme, ce qui est assez curieux, mais c'est un débat complexe. C'est un débat complexe. Il y a un regard de la presse américaine, notamment, sur ces problématiques-là en France, qui effectivement peut choquer certains lecteurs.
Avant de poursuivre notre entretien, Claire Carrard, je vous propose d'écouter Jean-Michel Boissier, qui est un des quatre fondateurs de Courrier International et qui en était le premier directeur de la rédaction.
L'atelier des médias.
Bonjour Jean-Michel Boissier.
Bonjour.
Le jeudi 8 novembre 1990 paraissait le premier numéro de Courrier International. Vous étiez le tout premier directeur de la rédaction et l'un des quatre fondateurs avec Hervé Lavergne, Maurice René et Jacques Rosselin, que je salue. Vous étiez tous des fous de presse et ce concept de Courrier International, vous y aviez travaillé pendant 3 ans. Racontez-nous cette époque-là.
Eh bien oui, effectivement, parce que 30 ans, pour nous, c'est 33 ans au moins. On a commencé à y travailler parce que, en fait, aucun de nous n'était journaliste. En revanche, on était tous des lecteurs de presse assidus et des lecteurs de presse internationale. Et donc, on lisait, on lisait la presse internationale, parce qu'on parle quelques langues. Et puis, on lisait beaucoup le monde diplomatique. Nos seules expériences journalistiques s'étaient produites. On avait dû produire un ou deux articles, comme souvent dans le monde diplo, des non-journalistes écrivent. Et puis, on s'est dit, mais puisque le monde diplomatique et d'autres journaux citent sans arrêt des grands titres de la presse internationale, pourquoi on n'ira pas? On n'irait pas y voir directement. C'est ce qu'on a fait. On s'est rendu compte qu'il y avait une mine extraordinaire d'informations, d'analyses et de visions sur le monde que nous ne connaissions pas et que personne ne connaissait puisqu'elle n'était pas transmise au lectorat français.
Alors pouvez-vous justement nous rappeler l'ambition, la promesse du Courrier international des débuts ?
Si je me souviens bien, on avait inventé un slogan que tout ce qu'on lira dans le Courrier international, on ne pourrait pas le lire ailleurs. Effectivement, on pouvait le lire ailleurs, mais dans les langues d'origine. Et donc, nous, on voulait transmettre toute cette formidable mine de sagesse, d'informations et autres au lectorat français qui n'y avait aucun accès.
Alors justement, à l'époque, le premier numéro de Courrier était tiré à 50 000 exemplaires. Courrier visait une clientèle de cadres, de dirigeants de professions libérales. Là, je cite vraiment ce que vous disiez à l'époque, qui veulent voir, je cite, les grandes tendances de l'actualité internationale.
Exactement. Ben écoutez, c'est toujours vrai, sauf que bon, le discours un peu très marketing de l'époque, évidemment, c'était pour attirer la publicité. Vous imaginez bien. On se rend compte aujourd'hui que le public de Courrier International, c'est aussi beaucoup des jeunes et des étudiants, ce qui déjà était le cas à ce moment-là.
Alors, je suis retombé sur une archive de France Inter d'il y a 30 ans, en novembre 90, où, en gros, on rigolait limite de cette bande de trentenaires et quadragénaires que vous étiez, qui souhaitait lancer un magazine, un titre de presse, et qui n'était pas vraiment intéressé par l'audiovisuel.
Bah, écoutez, d'abord, il faut se ramener 33 ans en arrière. À l'époque, il y avait quelques télés, mais enfin, on n'était pas encore dans le mouvement actuel. La presse et le papier avaient encore une vertu et une capacité d'attraction. Et on était des hommes de papier, hein, d'encre et de poussière. Et donc, on a poursuivi dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde disait ça marchera jamais, ça intéresse personne. Tous les journalistes et tous les grands, à l'époque, c'était le triomphe des hebdos. Souvenons-nous-en, ils vendaient leurs lecteurs à la pub et ils tiraient à centaines de milliers d'exemplaires. Et donc, eux étaient censément de bon conseil et nous disaient, donc, mais non, ça sert à rien. Dès qu'on fait une couverture internationale, les vents plongent, donc vous verrez, mes pauvres petits, ce qui va vous arriver.
Alors contextualisons, en 1990, vous recensiez quelque 5500 quotidiens à travers le monde et d'innombrables hebdomadaires mensuels. Au final, c'était assez peu de sources comparé à ce qu'on peut trouver maintenant. Et vous aviez choisi de vous concentrer sur une cinquantaine de quotidiens et d'hebdos qui faisaient référence à travers le monde.
Voilà. Écoutez, ça continue toujours. Il y a toujours, alors il y en a de moins en moins, mais il y a toujours aujourd'hui des médias de référence, en particulier des médias papier. Et donc, certains sont les mêmes, d'autres sont arrivés. Et puis évidemment, depuis lors, sont arrivés d'autres médias, les médias audiovisuels, et puis ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire les médias uniquement sur Internet. Mais on avait choisi à l'époque, évidemment, non seulement évidemment, de se concentrer sur ces 50 médias, mais de lire les autres. C'est-à-dire qu'on donnait à lire des journaux, oserais-je dire, improbables, que personne n'avait jamais entendu parler, et qui donnaient des informations formidables sur la Nouvelle-Zélande, les Tuamotu, ou que sais-je.
Alors Internet, à cette époque-là, était encore loin d'être disponible dans les rédactions et donc encore plus loin des foyers. Courrier avait un aspect réellement prospectif à cette époque-là. Déjà, ça donnait les grandes tendances de l'actuel international. Et on m'a même raconté qu'il y avait des grands reporters de rédactions parisiennes, notamment ceux de la télévision, de la radio, qui attendaient avec impatience le jeudi, le jour de la sortie de Courrier, pour trouver des idées de mission pour partir à l'autre bout du monde.
Je confirme, c'est exact. Parce que, écoutez, il faut se ramener aussi 33 ans ou 30 ans en arrière, à l'époque où les journalistes parlaient peu les langues étrangères, je dois le dire. Alors, les choses ont bougé beaucoup depuis, puisque maintenant, beaucoup de journalistes, les jeunes journalistes, parlent les langues. Mais à l'époque, il y a 30 ans, même les rédacteurs en chef, je ne les nommerai pas, des plus grands journaux, parlaient assez mal l'anglais, n'arrivaient pas très bien à comprendre ce qu'il y avait écrit dans The Economist ou le Financial Times. Donc, sans parler du Spiegel ou d'autres, ou des grands journaux italiens ou espagnols. Donc voilà, donc c'était ça ce qu'on a porté, c'est cette capacité à aller directement au fait, quoi. Alors, si je peux me permettre une anecdote supplémentaire, j'ai envoyé un mot un peu furibard au Canard Enchaîné, vous savez, qui utilise beaucoup les journaux, les autres journaux français en général, parce que tout d'un coup, du jour au lendemain, ils se mettaient à citer des journaux étrangers, évidemment, sans nous citer nous, et c'est bien sûr en lisant le Courrier International qu'ils avaient pu accéder à ces informations.
Donc vous venez de le dire, vous êtes lancé un an après la chute du mur de Berlin, mais dans les années qui ont suivi, il y a également eu la guerre du Golfe, et à cette époque-là, Courrier a publié en français des traductions d'articles de la presse arabophone, des titres que d'ailleurs qui étaient interdits de diffusion en France à l'époque, à ce moment précis de l'histoire.
Exactement, ben là on a fait très rapidement notre boulot, enfin, c'est ce pourquoi finalement on s'était inventé. C'était effectivement de pouvoir donner à lire des choses que personne d'autre ne pouvait lire, non seulement par la censure ou l'impossibilité, mais aussi par la langue, bien sûr. Donc effectivement, tous ces événements nous ont été, entre guillemets, utiles ou favorables. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont été, ça n'a pas été un succès, Courrier International. C'est un succès d'estime, mais on a mis très 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 longtemps avant que ça se transforme en succès réel, quoi.
Au début de Courrier, il y avait une dominante économique et technologique dans vos pages, mais il y avait aussi déjà la question d'avoir des exclusivités avec certains titres de la presse internationale, des exclusivités en français. Vous aviez déjà, dès le début, dès les premières semaines, les premiers mois, cette idée d'avoir une relation privilégiée avec certains grands titres internationaux pour en être les seuls à avoir le droit de reproduction en France.
Ben oui, parce que nous, on a découvert en marchant ce qu'on ignorait, ce que d'ailleurs le reste de la presse française ignorait, c'est le principe de la syndication qui est très peu usité en France, c'est-à-dire le fait que les articles circulent, se revendent. Les articles français le faisaient quasiment jamais, alors que dans le monde anglo-saxon et allemand aussi d'ailleurs, les articles pouvaient circuler dans d'autres médias. Et donc on est rentré dans cette logique, et puis on a créé aussi donc des accords parce que certains grands journaux de référence, comme je pense à The Economist, interdisaient de reproduire leurs articles dans les 6 mois suivant leur première publication. Donc, on était effectivement, du coup, il fallait qu'on conclue des accords pour pouvoir ne pas être trop tardif, puisque malgré tout, on était dans l'actualité. Publier un article de The Economist 6 mois après sa parution, c'était un peu compliqué, vous imaginez bien.
Alors, vous avez quitté Courrier International en 1997. Vous étiez à l'époque directeur de l'information. Que reste-t-il du Courrier International des débuts, à la fois dans l'hebdomadaire d'aujourd'hui et dans l'équipe qu'il fabrique?
Je crois qu'il reste pas mal de gens. Écoutez, je ne les vois plus. Je ne sais plus qui est parti à la retraite ou pas. Mais c'est un journal qui a créé une assez grande fidélité, si je ne m'abuse. Il y a peu de turnover. Il faut dire une chose, c'est que au départ, quand on a constitué l'équipe, il fallait deux qualités pour rentrer à Courrier International. Il fallait être modeste et polyglotte. Polyglotte, c'était déjà pas très facile, c'était pas évident, et modeste parce que les articles n'étaient évidemment pas signés, puisque c'était les articles des autres. On avait des chapeaux, des explications, des encadrés dès le début, bien sûr. Et donc on a nos journalistes ont été puisés dans un réservoir qui n'était pas vraiment celui du journalisme au départ. Il y a plein de journalistes qui sont rentrés et d'autres, beaucoup qui sont devenus journalistes. Mais au départ, c'était plutôt des universitaires, des gens comme ça. C'était plutôt effectivement, c'était proche du recrutement, si vous voulez, du monde diplomatique, en ce sens.
C'était Jean-Michel Boissier, un des fondateurs de Courrier International et premier directeur de la rédaction de cet hebdomadaire français. Je suis de retour avec Claire Carrard, l'actuelle directrice de la rédaction. Donc j'aimerais qu'on parle ensemble de la singularité de Courrier dans le paysage médiatique français et même international. Alors vous pouvez peut-être, et vous le connaissez mieux que moi, nous parler des autres existences de Courrier, des adaptations à l'étranger de Courrier International.
On a nous-mêmes plusieurs éditions à l'étranger, une édition en Portugal qui en fait est une édition mensuelle qui reprend certains articles qu'on publie dans l'hebdomadaire et qui fait une publication qui est très jolie une fois par mois. Il y a une publication en Belgique, une publication aux Pays-Bas, On a des affinités plus lointaines, mais toujours, on travaille avec Courrier Japon, donc qui est une édition aussi de Courrier International au Japon. Et puis, on a un cousin qui n'est pas avec qui on n'est pas directement lié, mais avec qui on a beaucoup d'affinités, et qui s'est créé, je crois, 3 ans après Courrier, c'est International en Italie, qui est bâti à peu près sur le même modèle. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples. Tous les autres titres sont liés à Courrier International.
Peut-on aussi parler de Courrier International et de l'Afrique? En 2013, quand j'ai travaillé à Courrier, il y avait l'idée de faire une édition Afrique, ça a été clairement envisagé, on avait travaillé sur un numéro zéro. Est-ce que ce projet a encore lieu d'être en 2020?
Je me rappelle très bien d'avoir travaillé avec vous sur ce projet. En ce moment, on n'a pas trouvé de modèle économique pour le développer. C'est ça la vérité. Donc, on essaye. L'Afrique, c'est un continent très important pour nous. Pour y implanter un journal, un hebdomadaire, pour l'instant, on n'a pas de clé là-dessus. Donc, on travaille avec RFI. D'ailleurs, on travaille aussi avec le Monde Afrique. On essaye de développer des partenariats pour avoir plus de contenu sur l'Afrique. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de projet prévu sur le continent.
Et quant à Courrier International et la relation avec la francophonie dans son ensemble, j'imagine que quand on sait qu'il va y avoir de plus en plus de francophones du fait de la puissance démographique actuelle de l'Afrique francophone, Courrier peut avoir de bonnes ambitions pour les décennies à venir?
Oui, et alors là-dessus, on a quand même développé quelque chose qui, parce que les projets qu'on avait, dont vous parliez, que vous mentionnez tout à l'heure sur l'Afrique, c'était un projet d'hebdomadaire, de mensuel, enfin plutôt de mensuel d'ailleurs sur l'Afrique, en publication print, ça c'est en publication magazine papier, ça c'était plus compliqué. Maintenant, avec les sites, on a par exemple aujourd'hui monté un site depuis quelques années. Qui s'appelle Courrier Expat et qui nous permet quand même d'accéder à des communautés. On a beaucoup de nos abonnés, de nos lecteurs sur le numérique qui vivent à l'étranger, beaucoup de francophones donc, et on espère par ce site et puis par d'autres moyens toucher la francophonie de plus en plus largement. On a fait pas mal de numéros sur le Canada où on a pas mal de lecteurs aussi. Donc, on réfléchit beaucoup à ces questions. On a fait plusieurs suppléments sur la francophonie. C'est un réservoir de lecteurs et c'est une zone d'intérêt très, très forte pour nous.
Intéressons-nous à la santé économique de Courrier. Alors déjà, au magazine, la diffusion de l'hebdomadaire Courrier International est un petit peu au-dessus de 150 000 exemplaires chaque semaine, c'est ça?
Non, on a 150 000 abonnés print et web, donc 95 000 abonnés print, 55 000 abonnés web, et c'est là-dessus qu'on a 55 000 abonnés numériques, c'est là-dessus qu'on a fait un bond très important par rapport à l'année dernière. On a pris à peu près 60% d'abonnés en plus sur le numérique. Et sur le print, on a stoppé un peu l'érosion que traversent tous les magazines depuis quelques années, donc on en est à 95 000 abonnés.
Au passage, est-ce qu'il y a une réflexion sur la poursuite d'un hebdomadaire, de ce rythme en tout cas hebdomadaire, puisque c'est lourd chaque semaine de faire un magazine, n'y a-t-il pas une réflexion pour passer par exemple en bimensuel?
Aucune. Alors, c'est absolument pas l'actualité. Non, l'hebdomadaire, pour l'instant, on arrive à bien faire les deux, c'est pas facile. Ça demande une gymnastique entre les équipes puisque les équipes s'adaptent. Il y a deux temps à gérer, le temps d'un hebdomadaire avec en plus nous une étape de traduction qui est assez compliquée à intégrer. Enfin, même si c'est très très fluide, on a un service de traduction formidable au journal. On a une étape de droit à gérer quand on fait le magazine chaque semaine. Quand on sélectionne des articles, il faut en acheter les droits, les traduire, les éditer. Donc, c'est un temps peut-être un peu plus long qu'un temps d'écriture parfois. Mais le print, ça reste très important pour le journal. C'est la force d'attraction, ce qu'on appelle la vitrine du titre. Mais on doit être sur les deux, là. Maintenant, on a demandé, les équipes tout le monde s'y est mis. On a bien conscience tout ce que... Ce fameux virage numérique qu'on a quand même commencé à prendre il y a quelques années, il faut le poursuivre de toute façon. Donc, sans altérer la qualité de l'hebdomadaire, il faut engager davantage de force sur le numérique. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, je trouve.
Donc le numérique, c'est chez Courrier International un site internet, des applications iOS, Android et également des différents formats, à savoir le réveil courrier par exemple. Expliquez-nous ce que c'est que le réveil courrier.
Le réveil courrier, c'est ce qui vous permet d'avoir tous les matins une synthèse de l'actualité avec des contenus frais sur l'actualité de la nuit, les dernières actualités importantes et une sélection d'articles qui n'ont pas encore été publiés, d'articles plus ou moins magazines ou actualités. C'est vraiment les 7 informations à découvrir le matin et c'est 7 jours sur 7, c'est très important pour nous, c'est une vitrine du journal et c'est plébiscité par les lecteurs. On cherche encore à améliorer l'édition, à être encore plus performant, mais ça se passe, c'est très important, c'est un rendez-vous très important pour nous qu'on a créé il y a 2-3 ans et qui au départ n'était que du lundi au vendredi, là maintenant c'est tout le temps, tous les 7 jours sur 7. Ça draine des lecteurs, ça donne de l'appétit aux lecteurs, ça nous permet d'avoir des contenus étalés toute la journée et on joue beaucoup, on varie les formats et les sujets en mettant de l'actualité très chaude et des sujets beaucoup plus magazines. Donc en ce moment, c'est vraiment un vecteur de développement très important pour le journal.
Le premier confinement en France a montré la soif des Français pour l'actualité, l'information au sens large, c'est-à-dire qu'il y a plein de titres qui ont réussi à multiplier leur nombre d'abonnés numériques. Ça a été également le cas chez Courrier International.
Absolument, oui, ça a été le cas avec... sur le numérique, on est beaucoup monté. La question, c'est de pas perdre ses lecteurs, c'est de les fidéliser. C'est pour ça qu'on mise, nous, toute notre stratégie sur l'abonnement et sur la qualité de l'offre aux abonnés. Voilà. Donc, on a très tôt mis en place des paywalls sur le site. C'est-à-dire que, pour les articles qu'on achète, qu'on traduit, coûtent assez cher. Donc, quand on s'abonne à Courrier International, on a accès à tous les articles traduits, ce qui n'est pas le cas quand on n'est pas abonné. Tous les contenus à très forte valeur ajoutée maintenant sont sur le site. C'est assez clair. Je pense que c'est très clair pour les abonnés. Donc, je pense que les gens ont bien compris comment ça marchait.
Alors, justement, là, 30 ans pour Courrier International, que peut-on souhaiter au titre et à cette rédaction pour la suite ?
Qui continue à se développer dans des beaux projets et qui arrive au moins à 100 ans.
C'est ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas. Merci beaucoup Claire Carrard.
Merci.
Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Courrier International, un hebdomadaire qu'on trouve tous les jeudis en kiosque et dont le travail de la rédaction est visible tous les jours sur courrierinternational.com. À bientôt.
Merci. Au revoir.
Je me suis habituée à tendance démodée, je te jure, je fais exprès. Tout bas, sans articuler, je me suis habituée. Santé, dans un verre fracassé, poupée, on adore s'étouffer. Santé, dans un verre fracassé. Je me barre sans m'excuser, j'adore te marcher sur les pieds. Tout va parler de moi, danser dans tes aromas, mieux que dans tes bras.
On approche de la fin de cette émission, c'est maintenant le moment de Mondoblog Audio qui donne la parole aux blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, on part à l'île Maurice, dans l'océan Indien, à l'est de Madagascar. La mondoblogueuse Elorak, confinée sur son île, nous parle de son attachement profond à la francophonie.
Que nous soyons en Afrique ou en Asie, en passant par les Amériques ou l'Europe, nous sommes tous contraints à nous barricader, à nous calfeutrer et à garder nos distances. C'est dans ce contexte d'urgence sanitaire que j'écris ces quelques lignes. Mais le confinement n'est rien. la distance sociale n'est rien. C'est ça la magie d'être francophone. Nous sommes éloignés, divers et variés, mais unis par une langue et une communauté de valeurs qui transcendent les barrières et les frontières. C'est aussi ça la force de la francophonie. C'est la fierté d'appartenir à un ensemble solidaire et hétéroclite qui défend la diversité linguistique et culturelle. J'ai attrapé le virus francophone depuis longtemps déjà, et en cette année 2020, où le monde entier lutte contre le coronavirus, je souhaite que nous nous battions. Battons-nous contre les virus de l'unilatéralisme et de l'uniformité culturo-linguistique qui menacent notre société. Le coronavirus nous a poussés à une sorte de démondialisation forcée. Peut-être est-ce le temps de redécouvrir nos pays respectifs, nos langues et nos identités multiples? Pour ma part, je prends ce temps suspendu pour fêter avec vous les 50 ans de la francophonie. Créativité, diversité, ouverture et liberté. De l'île Maurice au Sénégal, en passant par le Vietnam, au Québec, confiné, déconfiné, reconfiné, mais ensemble. Je vous salue tous.
Mondoblog.org.
C'était Elorak, jeune mauricienne, fière d'appartenir à la grande communauté francophone et défenseur de ses valeurs, notamment à travers son blog zilmaurice.mondoblog.org. C'est la fin de cette émission. Si vous avez raté le début à la radio, elle est disponible dès maintenant et en version longue en podcast. Abonnez-vous à l'atelier des médias de RFI sur l'application de votre choix, Spotify, Podcast Addict, Deezer ou encore Apple Podcast. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou par mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Un grand merci comme chaque semaine à Simon Decreuse qui a réalisé cette émission et à Camille Deloche qui a piloté Mondoblog Audio. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour célébrer un autre média trentenaire, RFI Romania. Il y a 30 ans, à Bucarest, naissait en effet une nouvelle radio dans les locaux de l'Institut Polytechnique. Elle est maintenant une référence dans le paysage audiovisuel roumain et nous vous la présenterons. Je vous dis à la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias. RFI.